marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio Libre.
Martin Cauchy.
Je m'appelle Martin Cauchy, j'ai 25 ans. J'ai été plongeur des mineurs dans la marine nationale, notamment à Brest, ces 5 dernières années. Et du coup, maintenant, depuis l'été 2020, et ben, je suis plus militaire et j'essaye un peu de trouver d'autres façons de vivre ma vie et m'intéresser notamment à la paysannerie, à la nature et un peu à tout ce qui peut se faire dans ce milieu-là, quoi.
Nous avons rejoint Martin à Névé, une petite commune du Finistère Sud, et nous nous trouvons sur des rochers, au bord de la mer, au niveau de l'estuaire de l'Avène et du Bélan.
Les plongeurs des mineurs, il y en a à peu près 250 en France. Il y a donc dans l'armée, il y a des officiers et des sous-officiers, on appelle ça. Et donc le travail que moi j'avais en tant que sous-officier, j'étais un peu technicien de plongée en déminage. Et donc on doit trouver un peu partout dans les mers, donc beaucoup en France, autour des grands ports qu'il y a en France, ou à l'étranger quand on est envoyé pour aider d'autres pays par exemple. Et sonder les fonds afin de trouver s'il y a des restes de munitions, des bombes, des obus, des mines, un peu tout ce qui a été lancé pendant, en France et beaucoup pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou alors des munitions modernes, ce qui est beaucoup plus rare, et donc les trouver et puis les détruire, tout simplement.
Et on en retrouve beaucoup dans la rade de Brest par exemple ?
Et dans toute la Bretagne et encore plus en Manche, c'est vrai que c'est les endroits où nous on travaille le plus, parce qu'on en retrouve beaucoup. Donc dans la rade de Brest, ça arrive assez souvent, on entend souvent aux informations, voilà, un obus va être contreminé tel jour à telle heure, donc il y en a sur toutes les côtes bretonnes. Et après si on monte en Manche, donc il y a des plongeurs des mineurs basés à Cherbourg. C'est vraiment là qu'on va en trouver le plus, parce que très logiquement, c'est là qu'il y a eu qui a été le plus grand théâtre d'opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout ce qu'on retrouve. Voilà, et donc il reste aussi quelques engins de la Première Guerre mondiale, mais il y en a encore beaucoup, c'est clair.
Et ton quotidien, toi, en tant que plongeur des mineurs, c'était quoi ?
Et donc moi, j'ai surtout travaillé sur un bateau qu'on appelle un chasseur de mines. Donc il y a deux façons d'être plongeur des mineurs, on va dire, classique. C'est soit sur un chasseur de mines, soit dans un groupement de plongeurs des mineurs. Donc ils sont basés soit à Toulon, à Brest ou à Cherbourg. Et donc sur le chasseur de mines, quand on n'est pas en mer, on s'entraîne, donc on fait du sport, on va faire des plongées pour maintenir la qualification, les compétences, pour s'entraîner. On fait des exercices de déminage et après des exercices plus liés à la vie dans un bateau. D'être marin, entretien du matériel, etc. Ensuite, des fois on part en mer, du coup en mission, donc ça peut être soit des missions, on va dire, soit des exercices. Et avec un chasseur de mines, c'est très souvent lié à du déminage sous-marin. Donc le rôle du bateau, c'est il y a un gros sonar sur le bateau, et en fait, à des endroits qui ont été déterminés par l'état-major, on va sonder les fonds pour essayer de voir toutes les formes qui peuvent ressembler à des formes d'engins explosifs, de mines, de bombes, d'obus. Donc c'est plutôt des formes cylindriques ou un gros rectangle ou des sphères, des choses comme ça. Et quand on va voir quelque chose comme ça, on va l'investiguer. Donc nous, on va aller faire une plongée dessus, tout simplement, et regarder ce que c'est du mieux qu'on peut. Si c'est quelque chose qui est peut-être un engin explosif, on va prendre des mesures, on va prendre les précautions qu'il faut. On va remonter sur le bateau avec toutes ces informations-là. Et sur tous les bateaux, comme ça, les chasseurs de mines, il y a toujours un démineur un peu plus, avec plus d'expérience, avec des diplômes en plus, qui est notre chef. Et lui, on va lui expliquer tout ce qu'on a vu, etc. Lui décrire, lui montrer les photos si on en a, les mesures. Et on va essayer de déterminer ce que c'est, quoi. Très souvent, on y va. Et en fait, il se trouve que c'est un vieux chauffe-eau, que c'est, un morceau de chalut, c'est un rocher tout simplement, la plupart du temps même c'est des rochers qui ont des formes en fait cylindriques qui vont faire penser à des engins, mais non. Et des fois, il se trouve que c'est des munitions. Donc là, une fois qu'on a pris toutes les mesures, voilà, qu'on est à peu près sûr de nous, c'est un engin explosif, et ben, on va lancer une opération de contre-minage. Donc d'abord, il va y avoir des autorisations à demander pour s'assurer qu'il n'y ait personne sur la zone quand on va contre-miner, parce qu'en fait, la plupart du temps, on le fait en le détruisant sur place. Et donc, une fois qu'on s'est assuré de tout ça, et ben, on va refaire une plongée dessus, mettre nous-mêmes de l'explosif à côté de l'engin, à l'endroit qui est le plus approprié pour le faire exploser d'un coup. Et on va relier cet explosif avec ce qu'on appelle des détonateurs et des fils électriques qui remontent jusqu'à la surface. Et après, depuis un petit zodiaque, en prenant les distances qu'il faut par rapport à l'engin qu'on a trouvé et la masse d'explosif qu'il y a dedans, et ben on va le faire exploser. Comme ça, ça nous permet de le détruire. Bon, ça fait pas mal de dégâts quand même sur la vie marine qu'il y a autour, mais bon, au moins, on peut s'assurer au moment où on le détruit que y a personne qui est en train de faire de la planche à voile à côté, etc. Parce que c'est nous qui choisissons à quel moment ça explose, et on est sûr qu'après, on peut aller faire une plongée pour vérifier, mais bon, selon ce qui se passe, on est à peu près sûr que c'est détruit et qu'il n'y a plus rien à craindre à ce niveau-là, quoi.
Et c'est le genre de plongée que vous pouvez réaliser été comme hiver, ça pose pas de problème, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais, toute l'année et dans toutes les mers. Je sais pas moi, du coup, pour l'anecdote, nous on avait été un hiver dans la mer d'Écosse, et donc on avait fait un peu de... C'était pour un exercice à la base, mais on avait trouvé des vraies munitions, et donc on avait fait ce genre de plongée dans de l'eau à 2 degrés, et faut s'adapter, quoi, t'es obligé d'aller beaucoup plus vite, parce que c'est compliqué de travailler quand il fait si froid, mais c'est possible.
Et jusqu'à quelle profondeur vous allez ?
Donc les plongeurs des mineurs ont un appareil qui s'appelle le Crab, qui est un recycleur. Et avec différents mélanges de gaz, on peut descendre jusqu'à 80 mètres de profondeur. Et après, le temps sera bien sûr plus réduit que si on va moins profond, mais c'est possible. Dans l'armée, on dit qu'à partir de 35 mètres, c'est ce qu'on appelle une plongée profonde. Et donc, plus on va aller profond, plus on va prendre de sécurité. Donc les plongées sont très encadrées dans l'armée. Il y a vraiment le maximum de sécurité qui est mis en place, en tout cas sur le papier. Et donc, on va se retrouver à devoir avoir, par exemple, une infirmière qui va être pas loin pour s'occuper en cas de problème, un caisson de recompression qui permet, s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes d'accident de désaturation, d'y pallier, un médecin qui va être pas loin. Et donc, quand on descend à 80 mètres, il y a tout ça qui est présent, avec beaucoup de soutien aux plongeurs, parce que les plongeurs vont devoir faire des paliers en remontant. Et donc on a même un plongeur d'assistance, on appelle ça, qui va descendre pour vérifier que les plongeurs font bien leur palier et que tout va bien, que les paramètres ont été respectés, etc. Mais du coup on est obligé de faire des paliers selon la profondeur et selon le temps, parce que sinon ça crée des accidents de désaturation, on appelle ça, en plongée, qui sont dus au gaz qu'on respire et à la pression qu'il y a sous l'eau. C'est des phénomènes physiologiques un petit peu complexes. Mais...
Bon, là, on a la marée qui commence à monter, donc on va peut-être se décaler un petit peu pour être un peu plus tranquille.
Allez.
Vu qu'on va remonter un petit peu,
on va éviter de... Moi aussi, je suis en train de prendre le vent. Et nous, je ne dirai rien.
C'est peut-être qu'on peut emballer, quoi.
Ça va ou ?
Ouais, j'attends juste la vague là.
Ok, impeccable. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des raisons qui t'ont poussé à t'engager dans l'armée, puis à en partir ?
Alors ce qui m'a poussé à m'engager dans l'armée d'abord, donc moi depuis que j'étais petit je voulais rentrer dans l'armée. Au début l'armée de terre, je voulais être maître chien dans l'armée de terre. Parce que j'aimais les animaux, parce que j'avais envie de vivre en collectif, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire quelque chose de physique. À ce moment-là, j'étais pas bien vieux, je sais pas, peut-être ça a commencé à mes 13-14 ans, mais j'étais patriote, j'aimais la France, tout ça. Et voilà, donc ça me paraissait évident que j'allais rentrer dans l'armée, quoi. Donc après, en faisant un petit stage, on appelle ça une préparation militaire défense dans l'armée de terre d'une semaine, ce qui était hyper intéressant, ce que je conseille à tous les jeunes qui ont envie de savoir ce que c'est que l'armée. Et je me suis rendu compte que l'armée de terre, c'était pas vraiment pour moi. Donc je me suis un peu écarté de ça. Et j'ai été faire de la plongée, après, pendant des vacances en Corse. Et je me suis dit, oh, la plongée, c'est trop bien, quoi. Et donc, à force de recherche sur Internet, j'ai mon bac, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui s'appelaient des plongeurs des mineurs dans la Marine nationale. Et je me suis dit, ça a l'air trop bien, quoi. Donc je vais faire ça. Donc voilà ce qui m'a poussé à rentrer dans l'armée, toutes ces raisons-là. Et puis en plus, la plongée à rentrer en tant que plongeur des mineurs. Après, à ce niveau-là, j'ai été servi. La vie en collectivité, j'ai voyagé, j'ai fait des choses physiques, j'ai fait des plongées, je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de faire autrement. Ce qui m'a poussé à partir, c'est plein de raisons auxquelles j'avais pas pensé, quoi. C'est que faut supporter l'autorité, même quand elle a pas de sens, ce qui arrive assez souvent, quoi. Répondre à des ordres pas de sens ou même avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, quoi, parce que sinon c'est très compliqué de s'intégrer et puis de fonctionner longtemps, de rester longtemps dans l'armée si on a du mal avec ça et qu'on n'accepte pas tout. Donc dès le début pour moi ça a été un peu compliqué, quoi. J'étais un peu le mouton noir, j'étais jamais d'accord avec ce qui se passait, j'avais des convictions petit à petit qui sont arrivées, des convictions écologiques, sociales. Et l'armée, c'était complètement l'opposition de tout ce en quoi je me mettais à croire. Et donc, petit à petit, c'est devenu difficile à supporter, quoi, d'être... ce que je dis souvent, c'est que mon travail, il était bien dans la forme, mais dans le fond, je m'y retrouvais pas du tout, quoi. Et donc ça devenait vraiment dur à supporter d'être en opposition complète au niveau de mes valeurs avec mon travail et ce que je pensais. Et donc ça m'a fait beaucoup m'interroger, commencer à me demander, alors est-ce que je quitte l'armée, comment est-ce que je peux faire. Donc moi j'étais sous contrat, donc jusqu'en 2026. Et il y a eu quelque chose qui a porté un peu le coup fatal et qui m'a dit, c'est bon, faut que je parte, quoi. Il y a eu en 2017 un collègue à moi qui est décédé en plongée, sur une plongée... assez banal, en manche, sur une épave, c'était pas si profond, une trentaine de mètres, je crois. Et en fait, il est décédé à cause de l'appareil. Alors bon, il y a un procès qui n'est pas encore fini, etc. Donc ce que je dis, c'est pas encore la version officielle, mais pour tous les gens que je connais, que je côtoie, qui ont plongé avec cet appareil, nous on sait pourquoi est-ce qu'il est mort. Ce gars-là, c'était un bon plongeur, il était en grande forme physique, etc. Et donc, il est décédé à cause de l'appareil. Il a eu ce qu'on appelle un foramen ovale perforant. C'est à cause de la différence de pression qu'il y a entre l'air qu'on respire et la pression qu'il y a, ce qu'on appelle la pression... la pression du milieu quand on est dans l'eau, qui est due au poids de la colonne d'eau qui est au-dessus de nous. Et du coup, en fait, ça fait que on doit forcer sur ses poumons pour respirer. Et donc on a les alvéoles pulmonaires qui explosent petit à petit et on se noie dans son propre sang. Pour faire facile à comprendre, c'est ça. Et donc ça, c'est dû à quelque chose sur l'appareil, une norme européenne donc qui n'est pas obligatoire mais qui est conseillée, qui n'est pas respectée par cet appareil, par exemple, et d'autres problèmes liés à l'équipement, en tout cas qui auraient pu être résolus assez facilement. Mais qui, selon moi, du coup, n'avait pas du tout été pris au sérieux par l'armée, la marine nationale, qui pourtant était au courant de ça. D'autres accidents comme ça étaient arrivés qui n'avaient pas été aussi dramatiques. Mais on avait plutôt caché ces accidents Et voilà, donc il y a eu cette mort, ça a retourné un peu tout le truc. Nous, on s'est rendu compte de tout ça parce qu'en fait, nous, on plongeait avec, parce qu'on nous avait dit faut plonger avec ça, c'est bien. Ok, il n'y a pas de souci, on ne réfléchissait pas à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, que peut-être qu'en fait, l'appareil, il n'était pas ce qu'on essayait de nous vendre, qu'il n'était pas aussi bien, qu'il y avait des problèmes. Et il y a eu plusieurs accidents, en fait, après. Donc, après, là, des gens encore plus proches de moi, des gens avec qui j'avais fait ma formation pendant un an, encore des jeunes hyper sportifs. Les deux, c'était des triathlètes. Enfin, c'est des triathlètes. Eux, ils ont eu des accidents, mais ils ne sont pas décédés. Il y en a un qui n'est pas passé loin, quand même. Et donc, bah, de toute la communauté des plongeurs des mineurs, enfin une grande partie, parce que c'était, il y a une partie de la communauté qui disait que c'était pour d'autres raisons, qu'il n'y avait pas de souci avec cet appareil. C'était souvent des officiers qui disaient ça, des gens qui étaient un peu plus haut placés et qui étaient moins du coup sur le terrain. Et bah, du coup, ça c'est un peu, voilà, il y a eu toute cette histoire dans la communauté des plongeurs des mineurs, et on s'est rendu compte, bah, de plein de choses, quoi, qu'il y a eu des conflits d'intérêts à la création de l'appareil, qu'il y a eu un médecin qui a menti pour essayer de cacher un accident avec cet appareil, enfin des choses qui étaient vraiment pas très claires. Et on s'est pas du tout soutenu, surtout ceux qui ont fait des accidents, c'est pas du tout senti soutenu par l'état-major de la Marine nationale. Donc bah, moi je connais quelqu'un par exemple. Voilà, il a eu des punitions, des jours d'arrêt, des choses comme ça. Et alors que c'est lui qui a fait un accident, voilà, ils ont essayé de reprocher des petites choses qui peut-être étaient vraies, des textes qui n'avaient pas été parfaitement suivis, qu'on ne plongeait pas dans la bonne zone ou des choses comme ça, mais qui n'avaient pas créé l'accident, ça c'est sûr et certain. Et ils ont essayé de, bah, de s'appuyer sur ces choses-là pour faire en sorte de dire que bah non, les coupables c'était pas le matériel, c'était pas la Marine nationale, mais c'était bel et bien les plongeurs. Donc ça a été pour moi vraiment dégoûtant, quoi. Donc je me suis mis à un peu être un peu militant de la cause contre cet appareil. Et à un moment, on a arrêté de plonger avec cet appareil, tout simplement, parce que là ça faisait trop de bruit, ils se sont dit bon, faut qu'on arrête, c'était trop dangereux. Et ils ont relancé la plongée avec cet appareil sur volontariat. Et donc, pour eux, ils nous expliquaient que si on n'était pas volontaire de plonger avec cet appareil, il n'y avait aucun problème. On se retrouvait à faire des plongées normales, on va dire, à l'air plus classique, et avoir du coup les primes qu'on avait avec cet appareil, de façon à ce qu'on n'ait pas un peu le couteau sous la gorge de l'argent pour se mettre volontaire alors qu'on n'a pas envie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que officiellement ça c'était la version. Officieusement, quand on nous a annoncé ça, moi j'ai dit que j'étais pas volontaire. Je me suis retrouvé aller dans le bureau de mon commandant à l'époque, c'était à Cherbourg. Et officieusement, là, c'est plus écrit nulle part, mais il m'a dit ça va être compliqué pour la carrière si tu plonges pas avec cet appareil. Ça va être compliqué de partir en mission si tu plonges pas avec cet appareil. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, là, c'est trop. Et je lui ai dit, bah, il n'y a pas de souci, moi, je vais demander à quitter l'armée. Donc voilà, ça a été vraiment le coup de grâce qui a fait que je me suis dit, bon, là, c'est bon, ma décision est prise, il faut que je parte de l'armée, quoi.
Tous ces moments que tu as pu vivre au sein de l'armée, est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, tu en gardes une certaine nostalgie ou pas du tout?
Oui, j'ai une nostalgie, ouais, c'est clair. Surtout, j'étais du coup avec mes collègues, on était très soudés, quoi. Quand vous vivez ensemble sur un bateau plusieurs mois, vous partez en mer, vous faites des plongées ensemble tout le temps, bah, tout de suite ça soude. Et donc je suis très nostalgique de ça. Je suis un peu nostalgique de la chance qu'on avait de pouvoir plonger un peu où on voulait, faire un peu ce qu'on voulait sous l'eau. On avait beaucoup de liberté, quoi. Comme je disais tout à l'heure, bah, dans la forme, le métier, il était intéressant, quoi. Il y avait quand même beaucoup de moyens pour faire des choses intéressantes. Et le boulot en lui-même, il y a une partie que je trouvais intéressante, dans le sens, bah, aller faire de la dépollution, parce que donc il y a un peu d'autres boulots dans le métier de plongeur des mineurs, faire des travaux sous-marins, il y a des choses que je trouvais qui avaient du sens, quoi. Donc tout ça me rend nostalgique. Mais bon, je me rappelle de mes derniers moments dans l'armée et je me dis que, voilà, que ça c'était pas assez fort, que pour autant j'ai bien fait de partir, quoi.
Oh, ça fout la frousse. Mon truc t'étouffe comme le couscous. Et la grosse secousse dans la brousse, pourvu qu'elle soit douce et sincère. Ça met faux cul comme le Medef et ses bornes Toulouse. Les responsables d'AZF, c'est Mururoa. Toxique comme la morora, tu murmures. Ça te rend doux comme un koala, tes zona. Mon truc t'attaque comme un zona. Repense à tous ces zous dans ta somme, tu zona. Reste zen, arrête de t'en foutre dans zen. Stup, c'est de la drogue, va l'écrire dans ton magazine. C'est comme Materazzi et Zinedine. Et je te shoot dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines. It's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Quel charivari, ça balance grave à Paris. 894 membres, parfois ça varie. Me pompe pas ma façon de crier. Où c'est tribunal, le gang des motards sera resté original. Quel gabji, ça se castagne au CIDJ. Noir et ma magie, mais jamais ça s'est assagi. Profil bas, j'suis pas très pisse ni en bas là-bas. Il restera entier ce mystère au chocolat. Soumets-toi, rencard à 4 heures sur le toit. Amène tes arguments, j'amènerai mon nunchaka. Ma colère gronde, j'te ferai cuire au micro-ondes. J'irai pisser sur ta tombe, ce sera immonde comme la fin du monde. Just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Le knick-knack, paddywhack, c'est Rascar Kabak. Ma technique te slack, mon meilleur pote c'est mon Mac. Mec, j'aime mon hamac, mais ma technique te nique. J'suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic. Époque en toc, que le grand cric me croque. Bla bla bla, fuck le rock et le baroque. Dans peu de temps, je serai la coqueluche.
Y'a trop de cons qui lèchent.
Rien pour me serrer la paluche. Ma stup zik fout des hématomes. Et y'a pas de mal, vu l'état de la zik dans l'hexagone. Ça fait poum poum tcha. Mon truc te déstresse la nuque, mec. Accroche-toi au rideau. Quand je déboule, ça fout la frousse.
The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, the crew, the crew, the crew, the crew.
Vous écoutez Marine sur Radio U.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie de Martin Cauchy, ancien plongeur des mineurs de la Marine nationale. Il s'engage désormais dans d'autres directions et privilégie les pratiques qui le rapprochent de la nature et de l'environnement. Ensemble, nous discutons de son passé militaire, de ses convictions et de ses pratiques personnelles.
Tout ça là, c'est le nombril de Vénus.
Ouais. Tu fais sans salade.
Ouais, tu peux manger cru, c'est super. On a un peu goûté là.
Récemment, tu t'es mis à récolter et chasser des espèces sauvages. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu dans lequel nous nous trouvons actuellement et nous expliquer ce que nous pouvons y trouver de comestible?
Alors là, on est à Port-Manec. On est à Port-Manec. Il y a la Veine qui se jette dans l'océan Atlantique. Et du coup, là, on a remonté un petit peu le long de la Veine. Donc c'est un milieu littoral et en même temps on va retrouver vite une forêt, vite un peu des plantes plus classiques de la Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Bah, le littoral, moi c'est là que j'ai grandi, c'est les endroits que je connais le mieux. Donc même si on va trouver beaucoup de littérature sur les plantes sauvages en montagne, etc., bah, ici ça s'y prête quand même drôlement bien. Sans parler des algues, parce qu'on sait que toutes les algues en Bretagne en tout cas sont comestibles. Et bah, ici on va trouver par exemple de la blette maritime, qui est une plante qui ressemble à de la blette classique et qui peut se manger de la même façon. Ça, on peut en trouver en grande quantité, en manger en grande quantité, c'est très intéressant pour ça. On va trouver de la salicorne, qui est assez connue, donc ça pousse dans les marais salants, mais on peut aussi en trouver en fait en bord de mer, ailleurs que dans les marais salants. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? De la roquette sauvage. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme un peu comme la roquette normale, ça a plus de goût. Les plantes sauvages souvent sont assez goûtues, quoi, donc ça a pas mal de goût. On peut trouver en bord de mer spécialement des nombrils de Vénus, mais comme ailleurs. Mais ici en Bretagne, on en a beaucoup, quoi, surtout les murets en pierre. C'est des plantes qui se mangent en salade. Ça peut remplacer tout simplement la salade verte, des choses comme ça. Voilà, après il y a plein d'autres plantes, je sais pas si on va en faire la liste, mais ici. Après, ben, en bord de mer, on peut aussi profiter de tout ce qui est crustacés, coquillages, donc surtout coquillages, c'est super facile, quoi. Juste aller chercher, les gens ne savent pas en général, ou ils y pensent pas, quoi. Mais si vous voyez des huîtres sur le bord de mer, ben, faut faire attention là où vous les récupérez, quoi, que ça soit pas une zone qui puisse être trop polluée, mais sinon, ben, en fait, vous pouvez aller en chercher avec un marteau, un burin, un peu partout, ou les ouvrir directement sur le caillou, et puis les manger directement dans les rochers. Voilà. Les moules, c'est pareil, si on trouve des moules de belle taille, un peu partout, on peut en récupérer, des bigorneaux, des coques, tout ça. Ici, ça se prête vraiment à la récolte, c'est pas vraiment de la chasse, là, c'est la cueillette de plantes ou de faune, comme ça, ou d'animaux marins. Après, moi, je fais un peu de pêche et de chasse sous-marine, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est vrai que c'est aussi un moyen facile de trouver à manger de bonne qualité, presque gratuitement, quoi, si on a l'équipement. Et puis, ça fait faire du sport, c'est intéressant pour ça aussi, quoi. Être un peu plus en adéquation avec le milieu, quoi, et puis profiter vraiment de l'endroit où on vit et qui est une vraie raison à être là où on est et s'en servir, quoi. On est le 28 mars, là, donc c'est le début du printemps. C'est, je pense, la meilleure saison pour se lancer dans les plantes sauvages comestibles, parce que y en a en abondance, hein, c'est le moment où toutes les plantes sortent, etc. Il y a des fleurs, donc il y a beaucoup de fleurs qui se mangent. C'est sympa aussi, ça a des goûts particuliers, hein, et ça amène de la couleur dans les plats, dans les salades, etc. Et donc, c'est vraiment le moment pour commencer, je pense. Et il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur les plantes sauvages comestibles. Après, vous pouvez trouver des livres spécialement sur les plantes sauvages de bord de mer qui pourront englober les algues. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui sont en Bretagne, en bord de mer, ou des livres sur des plantes en montagne et ailleurs, ou des généralités, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, ça se fait être bien. Je vous conseille.
On sait que tes convictions écologiques t'ont par exemple mené à ne te laver qu'à l'eau de mer pendant plusieurs mois, ou encore à te nourrir à partir du contenu des poubelles de supermarché. Penses-tu vraiment que ces actions ont un impact pour l'environnement ?
Moi, j'ai pas fait ça que pour des questions d'écologie. Donc aussi parce que si tu te nourris dans les poubelles, c'est gratuit. J'aime bien le concept de un peu ouvrir une boîte au trésor et puis voir ce que je trouve dedans. Mais donc pour ce qui est vraiment de la question, est-ce que ça a un impact sur l'écologie ? Moi je dirais que la réponse peut être assez simple en se disant si tout le monde fait comme ça, oui, ce serait énorme. Après, se doucher à l'eau de mer, faut être près de la mer. Les poubelles, tout le monde peut pas faire ça, sinon il y aurait pas assez, quoi. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant aussi de le faire, et puis ça a son petit impact, mais aussi d'en parler, pour essayer d'avoir un impact sur les gens, et puis pas juste dire tu devrais faire ça, mais voilà, moi je fais ça comme ça, et du coup je pense que c'est ce qui peut avoir le plus d'impact, quoi, être en accord avec toi-même et puis faire les trucs et montrer aux autres que tu fais ça et que c'est chouette et que il se trouve que c'est un impact positif, donc s'ils ont envie de faire pareil, voilà, quoi, c'est une bonne idée.
Et dans l'idéal, jusqu'où est-ce que tu aimerais pousser tes pratiques?
Ça je sais pas vraiment, je pense qu'il y a pas trop de, je me suis pas posé ce genre de questions, il n'y a pas vraiment de limite. C'est plus en fait mon idée première, moi, c'était de simplifier les choses. C'était pas vraiment être écolo, c'était plutôt simplifier ma vie, réduire mes besoins pour gagner en liberté. C'est ça l'idée. Donc dans ma tête, moi, si je suis capable de me baigner toute l'année dans l'eau de mer et que ça me suffit pour trouver que je suis propre, quoi, pour être propre même, je dirais. Et ça veut dire que chez moi, potentiellement, je pourrais ne pas avoir de douche, ne pas avoir de ballon d'eau chaude, ne jamais me doucher à l'eau chaude. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup de besoins en moins. Ça veut dire il y a moins besoin de travailler pour avoir de l'argent pour payer tout ça. Il y a moins besoin de construire une grande maison. Donc pour moi, c'est de la liberté en plus, quoi. Ça veut dire aussi, si je pars voyager et que je suis dans des conditions un peu roots, on va dire, pour moi, ça sera plus facile parce que j'ai l'habitude de ça et ça va pas me rendre moins heureux, quoi.
Tu nous as appris récemment que tu l'aides papa. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir maintenir cette position-là et cet idéal-là dans l'avenir ?
Oui, j'y ai pensé. Moi, je pense que je vois pas du tout en quoi ça va me gêner. Et je pense même qu'au contraire, moi, quand je pense à ça, au fait d'être papa, je me dis souvent plutôt que ça va être une motivation dans ma vie pour les quelques fois où je jetais un peu l'éponge, où je me disais c'est pas grave, hein, voilà. Et là, je pense que je vais avoir plus envie de tout faire bien. Alors, faut pas que ça soit extrême non plus, mais voilà, plus envie d'aller vers du mieux et de mener des expériences, de connaître des choses pour pouvoir les partager et partager mon vécu, quoi. Donc non, ça me fait pas peur, au contraire.
Et est-ce que tu considères qu'à ton niveau, ces actions que tu mènes, ça s'apparente à du militantisme ?
Non, je pense pas, non. Moi, je vois pas ça comme du militantisme. Moi, au contraire, j'ai souvent tendance à me dire que je suis pas militant. Je le regrette un peu. Mais parce que moi, dans ma tête, ce que j'associe à du militantisme, c'est plus essayer de faire changer les choses, mais en faisant des manifestations, en exprimant son mécontentement et en disant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et en menant des actions un peu plus qui ont un peu plus d'impact, qui sont un peu plus médiatisées, etc. Mais je pense que c'est ma définition du militantisme. Est-ce qu'elle est exacte ? Je ne sais pas. Donc moi, je dirais que non. Mais...
Et les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient, eux, essayer de réduire un petit peu leur empreinte écologique, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ?
Pour moi, ce qui a bien marché, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller vers plus de simplicité, quoi. Donc réduire ses besoins et l'écologie, en général, ça va venir avec, quoi. Si on se limite à se dire je vais plutôt aller me balader à côté de chez moi plutôt que prendre la voiture pour aller dans tel parc, telle balade, au moins une fois sur deux. Si je me dis je vais prendre une douche de moins parce que je vais aller me baigner, ou je vais pas me rincer à chaque fois, plein de choses comme ça. Si on mange tout le temps dans la même assiette et qu'on la lave jamais, je dis pas à tout le monde de faire ça, mais moi ce que je fais, par exemple, ça fait toujours ça de moins d'eau de consommer, de produits, d'éponges. Ça, quoi. Puis, il n'y a plus besoin que d'une seule assiette. Faut pas être extrême, hein. Enfin, chacun après faire quelque chose qui te correspond, quoi, c'est sûr, hein. Sinon ça marchera pas. De toute façon, si tu te sens, moi ça m'est arrivé pendant un moment, quoi, je me suis senti bridé par mes convictions et par mes attentes envers moi, et donc sur certains trucs j'ai été un peu moins extrême, j'ai lâché un peu la bride, parce que sinon si tu prends pas de plaisir, ou en tout cas si tu le fais et que ça t'embête, ça peut pas marcher, quoi, sur le long terme.
Et on a l'impression qu'il y a deux phases dans ta vie, cette phase en tant que militaire, puis cette phase où tu as complètement changé en fait d'idéal. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené un peu à modifier tes pratiques de vie, tes idéaux ? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été radical, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait de manière plus linéaire ?
Oui, donc ça n'a pas été radical, il n'y a pas vraiment deux phases. Petit à petit, quand j'étais dans l'armée, en rencontrant des gens, notamment quelqu'un qui travaillait avec moi sur le bateau qui s'appelle Hans, lui était, s'y connaissait bien en agriculture, à fond dans la permaculture, grand fan de Pierre Rabhi, etc. Donc il m'a un peu partagé tout ça. Donc ça a commencé par ces choses-là. L'écologie, le minimalisme, ce qu'ils appellent la sobriété heureuse. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de tout ce qu'on essaie de nous vendre, quoi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que quand on se libérait tout ça, on allait un peu plus vers la nature, et du coup ça donne envie de la préserver, ça donne envie de s'en servir, quoi. Même avant de quitter l'armée, je récoltais déjà quelques plantes sauvages, des algues, pas mal, avec les copains plongeurs avec qui j'étais. Du coup, on faisait pas mal de pêche, de chasse. Après, quand j'ai quitté l'armée, du coup, j'ai voulu aller vers aller vraiment vers ce milieu-là. Et donc, j'ai fait du woofing. Je me suis tourné vers des endroits où on parlait de faire de la récolte de plantes sauvages, mais aussi de la permaculture, de la paysannerie, quoi, de l'élevage, de ce genre de choses, mais beaucoup plus simplement, sans machines, sans tracteurs, vivre même, à la fin ça a fini par un endroit où on vivait entièrement entièrement sans machine, quoi, donc sans tracteur, sans tronçonneuse, etc. Pour les gens qui connaissent un peu la vie à la campagne, quand il faut faire du bois, etc., bah, c'est quelque chose qui est assez peu fréquent, en tout cas. Et toutes ces expériences-là, donc dans plusieurs endroits, et puis lire aussi plein de choses, parce que vu que j'étais à fond là-dedans, bah, toutes mes lectures, c'était des voyages ou de la nutrition, ouais, ou des livres sur les plantes, enfin des choses comme ça. Et donc ça, ça a duré quand même un bon moment où bah, j'étais en soif d'informations là-dessus, et du coup, en permanence, toujours en train d'essayer de découvrir des trucs là-dessus. Et bah, tout ça, ça m'a, petit à petit, ça m'a changé, quoi. Donc j'ai eu une phase où j'étais peut-être un peu plus extrême là-dedans, et voilà, après j'ai essayé d'allier ça avec le quotidien après le woofing, quoi, dans une vie un peu plus classique, et essayer de continuer à garder ça, quoi, cet attrait pour les plantes sauvages, pour l'histoire de vivre avec peu de choses, etc., quoi. Le woofing, en fait, c'est du bénévolat dans des fermes qui font de l'agriculture biologique. Alors, c'est pas forcément des fermes qui vendent des produits, mais pas forcément quelqu'un qui va aller faire le marché pour vendre des légumes, des trucs. Ça peut être juste des gens qui vivent différemment et qui pensent que, bah voilà, ils ont quelque chose à proposer et à montrer de différent, quoi. Et donc, on va trouver beaucoup de communautés, ce qui est souvent une communauté, c'est souvent agricole, parce que bah, il faut bien quelque chose pour faire vivre tout ce beau monde. On va trouver bah, des trucs plus classiques, des maraîchers, des éleveurs, un peu partout en France. Alors ça existe aussi à l'étranger, hein, bien sûr. Moi, j'ai pratiqué que en France. Et il y a, je crois, près de 2000 hôtes en France où on peut trouver, bah, des endroits où aller, quoi, tout simplement. Donc, et après, c'est un peu un accord, voilà, non officiel. Qui dit, bon bah voilà, faudrait que tu m'aides une demi-journée par jour, j'en sais rien, ou 5 jours par semaine, et puis après t'as 2 jours pour aller te balader, je te mets des vélos, des kayaks à disposition. C'est le but, c'est aussi de voyager, de découvrir l'endroit, de découvrir les hôtes qui nous accueillent, nouvelles personnes ou d'autres woofers qu'il peut y avoir sur le lieu, et en même temps bah, d'apprendre l'agriculture biologique, d'apprendre à faire son jardin, d'apprendre à faire des poteries, d'apprendre à faire des paniers en osier, enfin tout ce qu'on peut imaginer, on peut trouver un peu de tout en woofing, quoi, et puis passer des vacances comme ça, découvrir plein de choses, ou en faire même pas que des vacances, même je connais des gens qui en font bah, pendant plusieurs années, voilà, parce qu'ils ont un projet derrière de s'installer d'une certaine façon et ils veulent engranger de l'expérience, donc ils font ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, quoi.
De ton point de vue, en fait, quelles sont les problématiques actuelles qui concernent les environnements marins et littoraux, et même plus généralement les espaces naturels ?
Je pense que bah, le problème, c'est lié à l'homme, hein, ça, j'apprends rien, mais bah, par exemple, sur le littoral, bah, on va avoir envie toujours de construire plus, d'apprivoiser plus le milieu, quoi, construire une plus grande maison, faire les routes de partout, construire des magasins, des hôtels pour que tout le monde puisse venir, etc. Donc bah, je pense que c'est ça, c'est la concentration de population qui est un problème. Je sais pas, on peut parler par exemple de la ZAD de, si je dis pas de bêtises, Notre-Dame-des-Dunes en Vendée, où bah, voilà, ils ont voulu construire un énorme port. Alors
Bretignolles.
Oui, c'est à Bretignolles, oui. Et bah, c'est, pour moi, c'est le parfait exemple, quoi. C'est quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite. Est-ce que plus tard, il y aura besoin d'un aussi grand port ? Bon, bah, on est sûr de rien. Mais bon, ça fait marcher l'économie. Donc, on lance un projet faramineux de détruire la dune et construire un port, quoi. C'est complètement illogique avec la loi littorale et des choses comme ça. Tout ce qui a plutôt tendance à nous dire, faut protéger ce milieu. Mais de temps en temps, bah, c'est pas du tout ce qu'on fait, quoi.
Et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait réagir, nous ?
Bah, moi, je pense que la meilleure façon de réagir pour les gens, c'est le boycott de plein de choses, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, des projets comme ça, bah, souvent, on va retrouver des grands groupes derrière, quoi, Bouygues, Vinci et compagnie. Donc, bah, moi, je prends pas l'autoroute quand je me déplace en voiture pour pas leur donner d'argent, pour pas essayer de les amener vers des projets comme ça. Essayer de réduire ces déplacements en voiture parce que, bah, tout ça, c'est des dépenses qu'on maîtrise pas. Enfin, on maîtrise pas à qui est-ce qu'on donne l'argent, quoi. Et c'est des choses qui vont complètement nous dépasser, où on n'a aucune emprise là-dessus. Contrairement à aller acheter ses légumes au maraîcher du coin plutôt qu'à Intermarché, ben ça nous permet de savoir ce que lui va faire avec son argent et avoir un peu la main là-dessus, et puis être sûr que ça va pas partir dans la bulle financière et puis des projets qu'on maîtrise pas du tout, quoi.
Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous citer quelques œuvres qui ont particulièrement marqué ta vie ou qui t'ont simplement inspiré dernièrement?
Il y avait pas mal de livres, alors que je me rappelle des titres. Je sais que j'ai lu par exemple Le Monde en Stop. Ça parle d'un gars qui fait le tour du monde en stop, tout simplement. Ça m'a montré que c'était possible en fait de voyager avec presque rien. J'ai lu pas mal de livres comme Déguster les plantes sauvages de François Couplan, c'est pareil, qui te montre en fait, encore une fois, il n'y a pas besoin de grand chose, quoi. Le monde il est très généreux. Après, voilà, il y a des films que j'ai, d'autres livres que j'ai bien aimés, comme tout le monde, Into the Wild, ce genre de choses, ça fait rêver un peu, et je pense que c'est, on peut avoir besoin un peu de ça pour se lancer là-dedans. Et après, il y en a plein. J'ai lu beaucoup les livres de Pierre Rabhi. J'ai pas les titres en tête, mais ça aussi c'est super intéressant. Ça permet de mettre des mots sur ce qu'on pense et qu'on n'arrive pas toujours à exprimer, et du coup ça permet d'en parler avec d'autres gens, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs orateurs que nous, et du coup leur piquer un peu leur ce qu'ils racontent, quoi. Ça permet de partager ce que tu penses. Ou je sais pas, récemment j'ai lu un livre sur la vie de Gandhi, et voilà, encore un truc super intéressant qui te montre qu'il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour des causes qui les dépassent et qui sont bien plus importantes que leur vie à leurs yeux, et ça te fait te dire qu'il y a des raisons de se battre et qu'il y a d'autres façons de le faire que par la violence, etc., quoi.
Super, merci beaucoup Martin.
De rien, merci à vous.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de feuilleter Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, de lire Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, ou pourquoi pas de tenter de suivre les conseils de récolte et de cuisine de Jean Couplan à partir de son livre Déguster les plantes sauvages. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de Radio U où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brille Kalonek, Jody Kimberley-Grolier et Manuel Sahuquet. À bientôt!